Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Campus Lille le dimanche de 11h à midi sur le 106,6 ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec notre motard luttant de la Fédération Française des Motards en Colère, Guy, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors je sais qu'on va revenir sur ce projet de limitation à 80 km/h sur les routes.
Voilà, ce qu'ils appellent le projet VMA, vitesse maximale autorisée, et donc le gouvernement, la sécurité routière, enfin toutes les têtes pensantes font en sorte de nous préparer à une nouvelle mesure. La décision devrait être prise le 16 mai prochain, donc dans les prochains jours. Et on pressent qu'il va y avoir une expérimentation, en fait. On va nous faire avaler la pilule par ce travers-là. On l'a déjà vu sur d'autres sujets. Et donc on va expérimenter la baisse de la vitesse de 90 à 80 sur certaines routes départementales.
On a parlé dimanche, enfin il y a le mois dernier, il n'y a pas eu d'études concrètes de fait sur cette baisse de limitation de vitesse.
Bien sûr que non, et l'impact, on ne sait pas du tout ce qui va être, parce qu'en fait, quand on connaît un peu d'autres matières mathématiques, par exemple, enfin notamment au travers de des réseaux, de la gestion de réseaux, quel qu'il soit, en fait, il y a un moment optimal pour faire circuler ou des engins ou de l'électricité, enfin c'est pareil, ou de la communication sur des réseaux, etc. Il y a une optimisation qu'il faut trouver mathématiquement, et donc c'est par rapport au contexte, par rapport au trafic, qu'il soit de voitures ou de paquets de communication, etc., à véhiculer. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on applique ça partout sur le réseau, et donc on va faire en sorte d'engorger le réseau puisqu'on va être plus longtemps sur le réseau. Alors ça ne veut pas dire que ce que je dis milite pour une vitesse au-delà du raisonnable. Il faut trouver la bonne vitesse qui permet d'écouler au mieux un certain trafic. Et donc ça veut dire qu'il faudrait faire une étude réseau par réseau, enfin région, voire autoroute, enfin, etc., ou grande nationale, pour étudier le trafic et faire en sorte d'adapter la meilleure vitesse par rapport au trafic à écouler. Mais ça, bien évidemment, on ne le fera jamais. Donc on va mettre tout le monde dans le même sac comme on sait faire, et donc on va arriver à ralentir le trafic, entre autres choses, bien sûr, puis les PV.
Très bien, en sommaire également aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Christophe Tillemant, le correspondant Moto Magazine pour notre région lilloise. Christophe nous propose chaque mois le sommaire du mag. Christophe, bonjour.
Bonjour Lévis. Voilà,
là, un magazine
de printemps,
printemps bien épais. Hein.
Une invitation au voyage. Enfin, voilà, on va faire un petit tour du monde. Hein. L'industrie de la moto perd son or. Donc, sur la mondialisation du marché moto. Et puis, des tas de choses à découvrir dans le mag du mois de mai.
Nos invités, eh bien, c'est Pascal et Ludo du RIF. Messieurs, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc, vous allez, le 17 mai, ça va se passer à Illy. Hein, le RIF, expliquez-nous vite fait ce que c'est que le RIF.
Alors le RIF, à l'origine, c'est un concert hard rock. C'est-à-dire que le soir, on faisait un festival hard rock avec trois groupes et qui s'est regroupé avec le Team Rabbit pour l'organisation. Et maintenant, on organise tous les deux ans une exposition moto et auto. Enfin, surtout moto et quelques autos, des partenaires qui viennent se joindre à nous. Donc cette année, il y aura exposition moto ancienne, entre les années 70 et 80. On est ce qu'on appelle maintenant des young timers. Donc on est assez branché, certains respecteront, mais assez branché japonaise années 70-80. Mais on accepte.
C'est des bonnes machines hein, quand même. Hein.
Ouais, ouais. Mais on accepte les anglaises quand même. On est amateur d'anglais.
Ah oui, quand même. Tout, vous êtes sectaire quand même.
Je joue en allemand moi quand même.
Donc faut bien qu'on laisse un petit peu de traces quand même sur le pavé, quand même sur le bitume, ou si dans une salle.
Ouais. Mais bon. On est ouvert à toutes les motos des années 70-80.
Très bien. Alors on a aussi avec un très beau programme musical aussi. Hein, le concert, c'est pour le samedi soir.
Oui, c'est ça, voilà. Avec... Toute l'après-midi, donc, à l'extérieur, ce sera l'expo et les animations autour des vieilles mécaniques, donc. Et le soir, à partir de 19h30, trois groupes de rock, hard rock. Nous aussi, on est Young Timers.
Très bien, la moto et la musique, ça marche bien.
Ben oui. Hein.
C'est un ensemble.
Voilà. Les infos club avec Christine. Christine, bonjour.
Bonjour.
Alors, un mois de mai, alors là.
Très chargé le mois de mai.
On ne pourra pas tout faire. C'est pas possible.
Hein. Pas possible.
Et la programmation musicale, eh bien, c'est Laurent Rodier.
Rain is bound for glory.
Alors, le magazine de la moto, le dimanche, de 11h à midi, aujourd'hui avec notre motard luttant de la Fédération française des motards en colère, Guy. Alors, on revient d'abord sur la manif. Hein,
voilà, retour sur la manif. Donc,
qui se mobilise en premier c'est toujours les motards, comme d'habitude.
Comme d'habitude. Oui. Alors, il y a eu des automobilistes qui ont aussi participé, mais c'est effectivement beaucoup les motards. Donc, c'était le week-end du 12 avril, on en avait parlé à l'émission précédente. Hein. Donc, il y a eu des dizaines de milliers de motards, vraiment. Hein, dans 80 villes ont organisé des cortèges. Donc, c'était assez important. Et donc, ce que disent les opposants, ce que nous disons, c'est qu'il y en a marre de 10 ans de focalisation sur la vitesse en matière d'amélioration de la sécurité routière, de la prévention des accidents. Et donc, quand on focalise sur un point, on ignore tout le reste. En particulier, le manque de vigilance, le respect des distances de sécurité, l'usage du téléphone au volant, la dégradation du réseau, etc. Tout ça, ça passe à l'as. Donc, à cette occasion-là, il était intéressant, à l'occasion de cette nouvelle mesure, il était intéressant de voir les débats qui ont eu lieu à différents endroits. Et notamment, il y a eu un colloque au Sénat, colloque au cours duquel on a pu attendre Pierre Calvin, par exemple, qui est le président de l'association technique route et infrastructures, qui mentionnait, et ça ce sont des chiffres qui sont intéressants de connaître, la route rapporte 37 milliards d'euros par an à l'État. Et l'État n'en dépense que 17, donc on va dire la moitié à peu près, pour l'entretien, enfin pour améliorer le réseau routier. Donc il y a du pognon qui se fait sur le dos de la route. On va le synthétiser comme ça. Et puis il y a eu l'économiste aussi, Rémi Prudhomme, qui est un ancien prof de l'Institut d'urbanisme à Paris, qui a mis en balance les avantages moins de morts et de blessés et les coûts économiques des limitations de vitesse. Pour lui, limitation généralisée à 30 km/h de la vitesse dans les agglos, où circule plus de la moitié du total des véhicules, ferait économiser 300 millions d'euros, qui sont les coûts liés aux morts et aux blessés. Mais ça coûterait 44 milliards d'euros. On a parlé de 300 millions d'euros économisés, mais ça coûterait 44 milliards d'euros pour le temps perdu par les automobilistes de tout poil, en fait, je veux dire les camions, enfin le transport de toutes sortes. Donc on n'en parle pas, ça. On veut appliquer une mesure sans une réelle étude, c'est ça que ça veut dire. On va baisser arbitrairement à 80, pourquoi pas à 70, pourquoi pas à 60, on ne sait pas.
Et comme on disait, en Irlande, il y a des toutes petites routes qui sont à 100. On peut rouler à 100 km/h, mais on ne peut même pas rouler à 100 km/h tellement c'est sinueux.
Voilà. C'est ça qui est paradoxal. Et c'est ça qui est paradoxal, puisqu'on ne sait pas faire de choses comme ça. Alors, ce qu'on voit, nous, c'est qu'on met des radars, mais sur les autoroutes, essentiellement, alors que proximité des écoles, toujours, enfin, c'est quelque chose que je répète vraiment régulièrement, à côté des écoles, on trouve très peu de radars. À la limite un radar pédagogique, à la limite un dodane, mais c'est tout. Et là encore, si on voulait peaufiner un petit peu le sujet, et je peux en parler parce que devant chez moi, c'est ça, il y a deux écoles, donc et c'est une route départementale, donc qui circule quand même pas mal. Donc la nuit et en dehors des heures d'ouverture d'école, c'est limité à 30. Alors que là, on pourrait laisser écouler le trafic normalement et, à la limite, mettre un radar qui, aux heures de sortie des écoles, flash au-delà de 30 km/h. Au moins, ça serait une réelle mesure de sécurité et surtout, les gens comprendraient pourquoi. Aujourd'hui, on fout un radar en pleine autoroute parce que dans une descente, parce que c'est là où on va en prendre le maximum, parce que cet endroit-là, c'est limité à 110. Il n'y a aucune pédagogie dans le système. Alors pour essayer de conclure et faire vite, on peut rappeler deux études. On en avait cité en 2012 ici à l'antenne, mais ils ont refait une autre contre-mesure, si on peut dire. Donc il y a eu l'AFSA, l'Association des autoroutes françaises, en fait, qui cite un certain nombre de chiffres. Et donc on peut mettre en avant que la somnolence est le premier, sur les autoroutes, est le premier facteur d'accident, 1 sur 3. L'alcool, les drogues, enfin tout ce qui s'ensuit, c'est un accident sur 4. Et la vitesse excessive, c'est 1 sur 8. Donc c'est pas là où la vitesse, où faut combattre la vitesse, puisque c'est pas le facteur majeur de cause d'accident.
Les régulateurs de vitesse aussi.
Alors voilà, l'autre étude, c'est 2013, les régulateurs de vitesse. Et donc j'aime pas, parce que c'est la Fondation Vinci. Bon, Vinci, on va pas dire que j'aime, mais on va les citer quand même. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et donc ils ont financé finalement le laboratoire, le centre d'investigation neurocognitive et neurophysiologique, pas moins, de l'université de Strasbourg. Et donc ils ont fait une étude et ils montrent que effectivement, rouler au limiteur de vitesse et au régulateur de vitesse conduit à une baisse de vigilance assez importante. Et ça, on ne fait rien là-dessus. Et je lisais ailleurs, et puis je vais conclure là parce que j'ai dépassé les 5 minutes. Quand on lit sur le net différents rapports, on s'aperçoit qu'il y a des camions, des camionneurs, hein, donc, qui téléphonent volontairement pour rester éveillés. Parce que eux, on leur demande d'arriver de point A à point B sans possibilité pour eux de s'arrêter, etc. Et donc, on fait fi de toutes conditions de sécurité. S'ils prennent un PV, c'est eux qui le payent, c'est pas le patron. Et donc, ils téléphonent au volant pour rester éveillés. Donc, c'est bien une cause majeure d'accident. Mais ça, on fait rien non plus. Donc, c'est pour ça qu'on dit halte aux mesures répressives et coercitives sur la vitesse. La vitesse aggrave les accidents, mais ça n'est pas la cause unique. Et il y a beaucoup d'autres moyens à mettre en œuvre pour parvenir à améliorer la sécurité.
Le magazine de la moto, c'est le dimanche de 11h à midi. Une petite annonce, Christine.
Mais oui, il fait beau, donc vous pouvez aller donc à Croix-en-Ternois pour le championnat de vitesse en moto ancienne.
Très bien, Guy, on revient donc. On va revenir sur.
Sur le sujet de la VMA.
La VMA, voilà. Mais en fait, il y a un article dans Motomag et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on fait le sommaire.
Voilà, alors effectivement, on revient sur la manif du 12 avril. Donc Guy a déjà passé en revue tous les points. Il y avait effectivement 60 000 participants sur 60 villes au niveau français. Alors les associations d'automobilistes, 40 millions d'automobilistes et la Ligue de défense des conducteurs étaient présentes. Mais sur le terrain, il y avait 99% de motos, hein, tu l'as bien dit. Alors le rendez-vous dont tu as parlé, c'est effectivement le 16 mai qui va être une date importante puisque c'est là à ce moment-là que le comité national de la sécurité routière se réunit et que sur proposition de la commission alcool et vitesse, ils vont maintenir donc la préconisation d'appliquer cette baisse de 80 à 80 km/h sur les départementales. Donc on peut penser que si le gouvernement suit cette application, bah, elle interviendra pour l'été. Donc affaire à suivre, mais il va se passer des choses effectivement très prochainement. Donc voilà, ça c'est un des sujets qui est abordé. Alors dans Motomag, on revient aussi sur bon, la saison des Grands Prix et des courses motocyclistes. Vous savez qu'il y a un désintérêt des participants, enfin des spectateurs. Et donc justement, aujourd'hui, la fédération a mis les bouchées doubles pour attirer à nouveau les spectateurs. Donc le Grand Prix de France, je rappelle les dates, hein, c'est le 16 et le 18 mai prochain. Ça se passe donc au Mans. Alors je rappelle que pour nous du Nord, les autoroutes sont gratuites sur la partie Saint-Arnoux, donc Le Mans, c'est la 11. Et puis bah, parking gratuit sur place, tribune, 10 000 spectateurs en tribune donc possible, séance de dédicace, show, enfin ils ont mis les bouchées doubles pour attirer à nouveau le public. Et puis un événement important aussi qui intervient, c'est le retour au Castellet, le circuit Paul Ricard en 2015, je rappelle 2015, du Bol d'Or. Qui se disputait jusqu'à présent à Manicourt. Donc Manicourt bah, est un peu perdant dans l'affaire et donc proposeront donc en juin 2015, je dis bien c'est l'année prochaine, les 12 heures de Manicourt pour compenser un petit peu la perte de. Mais il faut rappeler que historiquement,
c'est pas. Oui, historiquement c'était
le Bol d'Or.
Voilà.
Le Bol d'Or.
C'était
au Castellet.
Oui, Jean-Yves.
J'étais à Montlhéry, j'ai fait un Bol d'Or à Montlhéry.
Voilà. Alors évidemment.
Alors ça remonte, hein, déjà, nous, parce c'est... que le Bol d'Or en Castellet, c'était 1978,
moi,
1999.
Ma génération, c'était au Castellet. Évidemment, la chaîne, c'était peut-être à Montlhéry, mais alors ça remonte assez loin quand même.
Et puis, puisqu'on parle des courses, eh bien, le Mans qui reviendra donc, également en avril. Hein, donc il y a eu pendant une saison, enfin c'était au printemps de 1978 aussi, s'il passait des choses en 1978 à 2010. Et donc, bah, c'est, vous voyez, un grand remue-ménage là.
Alors, Christophe, on ne sait pas, hein, Bol d'Or au Castellet, je ne sais pas comment ça va se passer parce que le circuit n'a pas trop évolué depuis 30 ans. Je ne sais pas comment. Et s'il va y avoir assez de place pour recevoir le paddock, hein, parce que maintenant, vous avez vu, c'est carrément des motorhomes, des camions qui font 35 mètres de long. Les spectateurs. Moi, je me souviens, quand j'allais là-bas au Castellet, il y avait deux chiottes pour 35 000 personnes. C'était vite. Ça tuerait quoi.
Ah, c'est clair.
Donc j'espère qu'ils vont. Bah, ils ont un an et demi pour refaire les travaux. Ça va aller.
Alors je parlais bah, numéro de printemps, donc numéro d'invitation à sortir les motos. Et donc je rappelle que la maquette de Moto Magazine a changé il y a deux mois. Donc une nouvelle rubrique nostalgie. Et donc j'ai ressorti bah, Suzuki, le plus gros mono du monde. Je ne sais pas si vous avez roulé là-dessus. Hein, Suzuki. La Suzuki DR800.
Ah oui.
Si
oui.
Ça vous parle. Oui. Bon, donc voilà, une moto. Alors, une Youngtimer qui pourrait être à Ely, certainement, hein, si toutefois on trouve un propriétaire qui en possède une. Et donc, les grosses GT aussi, un essai comparatif. Et puis, bien sûr, toujours des essais, soit en. Ah oui, celle-là, je l'ai trouvée effectivement une future collector, la nouvelle BM, la 9T, ou 9T, comme vous voulez. Alors bon, c'est un ticket à 15 000 euros, mais je suis sûr que ça, c'est la moto des collectionneurs par excellence.
Au niveau confort, voilà. C'est un peu léger quand même. Hein, au niveau la
sellerie,
un
peu. En BMW connaisseur.
Pour faire un road trip, par exemple, genre l'Irlande, pour la passagère, ça va lui faire le bout de la semaine. Hein.
Surtout que tu as l'option monocelle, celle mono plutôt. Donc ça rend les choses plus compliquées. We'll be right back.
Voilà, et on retrouve notre ami Guy Pilarzic qui se trouve du côté de Plomion. Guy, bonjour.
Oui, bonjour la biche.
Alors,
bonjour,
Plomion, c'est dans l'Aisne, hein?
Et c'est dans l'Aisne, exactement, juste à la frontière du Nord. Hein, c'est au sud de Avesnes-sur-Helpe, à une trentaine de kilomètres à peu près. Donc voilà, je suis sur place pour le Grand Prix de France, championnat du monde de cyclocross, sur le circuit de la Comtesse. La Comtesse, je ne l'ai pas vue. c'est la deuxième épreuve du championnat du monde. Il va y avoir trois championnats du monde en France, à Vesoul et à Brou. Et la première épreuve s'est déroulée en Hollande il y a 15 jours. Et aussi la troisième épreuve n'aura pas lieu parce qu'elle se déroule en Ukraine, mon cher Lamiche.
Ah oui, ben là, il y a des problèmes, là, pour
ça. Il y a des problèmes, là, parce qu'ils ont déjà annulé le motocross MX2 et 1 en Ukraine, et puis bon, le Sikar. Hein, alors, ici, il y a 75 équipages présents, et seulement 30 seront au départ. Donc, il y a eu les qualifs ce matin. Et c'est bien sûr le tenant du titre, c'est un Belge, Etienne Bax, et c'est un Belge, et Gaspard Stupelis, qui est un Letton, parce que bon, les singes sont souvent lettoniens maintenant.
Ils sont plus costauds, Guy.
Comment ?
Ils sont plus costauds, ils résistent plus au choc.
Voilà, et puis je voudrais aussi signaler qu'il n'y a personne qui jette de bananes aux singes sur le circuit.
Ah bah oui, hein, en motocross, en sidecar cross, non, ça se fait pas.
Voilà, voilà. Et ensuite, on a aussi le Hollandais Daniel Willemsen, qui tente de ravir son 11e titre de champion du monde. Il a fait le deuxième temps ici au temps chronométré. Alors, Willemsen, il ne faut pas confondre avec un spécialiste nordiste qui vend des plantes de jardin à Roubaix.
Ah, bah, je ne suis pas très calé en plantes, alors.
Ah bon, bah... Alors, on avait eu à la radio et au téléphone, tu te rappelles, Valentin Giraud.
Oui.
Mais Valentin Giraud ne se sont pas qualifiés dans les qualifications A et B.
Ah.
Donc, ils ont été repêchés. Donc, ils vont quand même disputer le Grand Prix. Bon, c'est-à-dire, le circuit, il est arrosé. Donc, il n'y a pas de poussière. Hein. Donc, normalement, Valentin, il y a eu quand même des problèmes de moteur sur son attelage.
Très bien.
Alors, oui.
Ça se passe en comment le départ, la journée, ça se passe comment? C'est en deux manches?
C'est en deux manches. La première manche est à 13h30, la deuxième manche à 16h. Et ça dure 30 minutes chaque manche, plus deux tours.
D'accord. Et les moteurs utilisés, c'est quel type? Quelle marque?
Oui, alors voilà. Alors, les SID, tu vois, ils s'appellent WSP, VMC, WHT, AYR. Alors, c'est les marques des SID qui sont les abréviations des constructeurs de cadres. Et les moteurs? Mais les moteurs, ici, en disant à 80%, c'est des moteurs allemands, c'est des moteurs Zabel, c'est des moteurs deux temps, et c'est des moteurs à l'origine de hors-bord.
Ah bon?
Alors, je veux dire, la patate qui dégage, parce qu'il doit faire plus de 100 chevaux, parce que l'attelage plus les deux pilotes, bon, ça fait quand même... 200.
Ah oui, ça fait du poids, oui.
Presque 300 kilos, quoi. Tu vois,
Et je suppose que le terrain, il n'est pas pareil, que c'est moins accidenté que en solo, quoi, en motocross.
Ah, non. Parce qu'il va y avoir une course solo entre deux, et piste avec des sauts, etc., quoi. Hein, un peu plus large, quand même en largeur, parce que bon, la sidecar prend un peu plus de place. Mais sinon, c'est. Le circuit est exactement pareil que pour les solos. Alors, tu parlais des moteurs, alors je parlais d'Isabelle, et il y a des moteurs M et Husqvarna, et ainsi que Jawa, parce qu'il y a des Tchèques qui roulent ici, et Honda. Voilà tout ce que au niveau des moteurs. Je voulais aussi signaler que, écoute, j'étais étonné, il y a une fille qui roule en sidecar.
Ah bah écoute...
oui, mais tu vois... bon,
c'est maintenant, les femmes, on les voit partout, hein.
Il faut l'amener, elle s'appelle Sabrina Van Castel, elle est belge. Elle a été qualifiée en Hollande, elle a roulé, mais elle n'a pas marqué de points. Et elle est bien, elle est ici présente, mais elle n'a pas été qualifiée. Parce que bon, avec 75 pilotes complètement, enfin pas déchirés, mais qui...
Oui, ah bon. là, qui ont la hargne.
Voilà. Ouais. Alors un petit mot sur les champions du monde, parce que c'est un peu spécial. Tous les champions du monde viennent soit de Suisse, Hollandais, Belges, Allemands ou Lettons. Alors, au niveau français, en 91, c'est un pilote français, Gilles Mécène, qui est arrivé troisième du mondial. Et par chance, mais son fils roule ici, Anthony, il représente son père qui avait roulé dans les années 91. Tu vois. Donc bien. Voilà, alors actuellement, séance de dédicace sur le circuit, et puis... ici, au niveau public, écoute, on parle plutôt belge, hollandais, allemand. Hein,
très bien.
Les Français sont en minorité. Bon,
toujours, on peut toujours... première manche, c'est 15h, tu m'as dit, c'est ça?
Non, 13h30.
13h30, hein, Plomion dans l'Aisne, c'est pas très loin de Lille, hein, on peut toujours s'y rendre. Hein,
ouais, voilà.
Parce qu'aujourd'hui, il fait beau.
Entre Avesnes-sur-Helpe et Plomion, gaffe au radar, hein, parce que...
Oui, bon.
Sachant que...
On va le dire à tout le monde, alors.
Ils sont tous sortis.
Très bien, Guy.
Bien, ben voilà.
Merci.
Compte rendu et photo sur le forum
de K1C
de la semaine.
Très bien, merci Guy, merci d'avoir appelé. Bonne
Allez,
journée.
Salut.
We'll be right back.
Lomion, c'est trop loin pour vous. Eh bien, c'est pas grave. Il y a une bénédiction de la moto aujourd'hui à Bailleul. Christine.
Oui, il y a la 5e bénédiction des motards à Bailleul, donc à l'occasion de la Ducasse. Donc, c'est à 15h. C'est rue Philippe Vantinghem. Et donc, c'est l'abbé Janin qui est toujours fidèle au poste.
Oh, je le connais, l'abbé Janin. Oui,
toujours
oui,
fidèle au poste.
Sympa, c'est un motard aussi.
Et voilà, après, donc, vous pourrez faire une balade et puis il y a un spectacle après.
Donc, c'est à partir de 15h.
Voilà, 15h.
La bénédiction. Hein. Mm. Et après, j'ai vu qu'il y en avait encore plusieurs des bénédictions encore. Bon, si vous voulez toutes les faire, on ne sait jamais, hein, ça ne mange pas de pain. C'est gratuit en plus.
Ça s'appelle voilà. Toutes les chapelles.
Voilà, Christophe, on revient sur le sommaire Motomagazine voilà. Du mois de mai. Un gros pavé. Là.
Un dossier d'enquête lire, hein. Intéressant sur la mondialisation de l'industrie moto. Hein. L'industrie moto perd son or, c'est le titre de Motomagazine. Alors, si on devait caricaturer, comme c'est dit dans l'article, avant, il y avait les grosses motos pour les riches et les petites pour les pauvres. Bon, c'est plus vraiment
c'est
vite, comme
c'est
ça.
Vite fait, hein, t'as enjambé le pont très vite.
Voilà, c'est plus vraiment comme ça. D'abord parce que les marchés se sont complètement déplacés. Hein. Je vous donne quelques chiffres pour mesurer l'ampleur des choses. Il s'est vendu en Europe 1,35 million de motos l'année dernière, contre 13 millions en Chine. 13 millions en Inde, aux Indes, pardon, et 7,8 millions en Indonésie. Donc vous voyez, le marché asiatique, il pèse quand même lourd sur le marché mondial. Et donc aujourd'hui, pour tous les constructeurs, il faut absolument être présent sur ces marchés. Et donc un besoin aussi de produire local. Pour pouvoir vendre local. Alors, on parlait tout à l'heure, si on doit rouler à 80, on va revenir à la petite cylindrée. Et effectivement, dans ces pays-là, c'est les petites cylindrées qui ont de gros succès, hein, de 125 à 500 cm3. Et donc, c'est pour ça que les gros constructeurs, BMW, produit sa F800 dans ce continent-là. KTM, c'est 125 et 390 sont produits donc, en Asie. Et ils investissent ainsi ces marchés locaux. Donc personne ne peut y échapper. Et donc, alors bien sûr, c'est des investissements colossaux, mais c'est aussi un coût de main d'œuvre aujourd'hui encore attractif. Donc ils équilibrent leurs comptes comme ça, et c'est surtout les marchés qui s'ouvrent à eux. Alors un autre dossier, et on fêtera donc, vous le savez, le 6 juin prochain, donc les 70 ans du débarquement, et donc la présence de la moto dans ce jour-là qui a joué un rôle important. Alors ils sont allés dénicher vraiment des perles rares. En fait, ils ont fait témoigner Bernard. Il avait 15 ans à l'époque, donc vous voyez, il en a 85 aujourd'hui. Et il roule toujours sur une moto de l'époque, hein, une Harley. Alors la miche, une Harley WLA. Donc, je suppose que ça te rappelle. T'étais pas né.
Ça me rappelle rien du tout. Ouais. Voilà. C'est pourquoi tu demandes. Je demande ça plutôt à Jean-Yves. Il va te le dire. Parce que lui, il a été voir le bol d'or à Montlhéry.
Et donc, Bernard, à 5h du mat', ce fameux 6 juin, il est allé chercher les vaches.
Il a
commencé à entendre les tirs arriver de la mer.
Il a débarqué.
Il est rentré fissa chez lui. Ouais. Son père a barricadé. Puis ils ont attendu que ça tombe. Alors, pour vous donner l'ampleur, parce que ça sincèrement, moi je suis pas historien, mais c'est vrai que quand on lit les chiffres, c'est quand même impressionnant. 156 000 hommes qui vont débarquer, 20 000 véhicules. Il y a 4 000 personnes, 4 000 morts, 6 000 blessés dans la seule journée du 6 juin. Et donc cette brèche qui sera ouverte en Normandie, avec là on passe en revue tous les sites historiques de la Normandie. Il y a 3 millions d'hommes qui vont débarquer donc, et qui vont permettre la libération. Alors, ils font témoigner, donc, après des ressources historiques là, qui ont été retrouvées, ceux qui ont débarqué avec les types de motos. Alors, BSA, on parlait là, tout à l'heure de la balade irlandaise, hein, de l'usine BSA. BSA, bon, outre les motos qui ont été leaders sur ce jour-là, fabriquer des vélos. Ils ont fabriqué des vélos pour...
Aussi des armes, des guns.
Ah oui, mais bon, donc là c'est... En fait, ils reviennent vraiment.
British Mola.
Ah non, je suis désolé, là, Jean-Yves, t'as tout faux. Alors là, Jean-Yves, tu t'es enfoncé dans le truc, mais comme je m'en doutais. Et non, c'est pas British Small Arm.
C'est avoir aussi la
mais c'est Birmingham Small Arm, Jean-Yves. Et voilà, c'est tous fait avoir, sauf un qui était là. C'est commencé, M. Capello, qui dit mais non, c'est pas British. Voilà, c'est Birmingham parce que c'est fait à Birmingham.
Les BSA. Et la M20, et d'ailleurs, le débarquement, une 500 latérale. Ouais.
Et le symbole de BSA, c'était trois fusils.
Trois fusils en faisceau.
La minute culturelle, Christophe.
Tout à fait, mais c'est important. Il faut que nos auditeurs sortent de notre heure d'émission
en ayant appris quelque chose.
Heureux et sachant. Et donc, non, mais cet article met en évidence en fait toute l'importance de la moto, la place qu'elle a revêtue, ce pourquoi d'ailleurs, justement, les motocyclistes étaient employés, reconnaissance, liaison. Et ils y ont laissé aussi un lourd tribut parce qu'il faut voir dans quelles conditions on ne roulait pas équipé comme aujourd'hui. Hein.
Non.
Il y a des descriptions des casques dont ils étaient affublés. Hein, quelquefois, ils roulaient avec le masque à gaz.
Oui, donc, bien pratique.
Imaginez ce que ça pouvait donner. Et puis, l'ennemi avait quand même une ruse. Il tirait des filins en travers des chemins.
Tu sais, il y a un film qui symbolise bien ça. Hein, c'est La Grande Évasion. Hein.
Voilà.
Vous vous souvenez, c'est moins de cuit. Steve McQueen qui tend un filin en travers de la route. Hein.
Tout à fait.
Et c'est là qu'il récupère la moto de soi-disant soldat allemand.
Et c'est donc aussi...
Qui roule sur une Triumph. C'est curieux qu'un Allemand roule sur une Triumph, mais...
Je rajouterai une petite note historique là-dessus.
Oui.
C'est que Triumph a été aussi fabriqué en Allemagne.
Ah oui.
Et c'était pas du tout la même firme.
Ah, c'était... Voilà.
Mais il s'appelait...
Durant la guerre.
Triumph Werke.
Ah, d'accord. Voilà. Alors, c'était ça.
Pour tromper l'ennemi,
Mais je pense que ça a servi beaucoup aux réalisateurs, parce que Steve McQueen, qui était pilote de moto, hein, et qui participait à des badges là-bas, au Mexique, a fait les cascades, tout au moins une partie des cascades, et il les a faites sur une Triumph, parce que c'était sa moto, les motos qu'il aimait bien.
Et alors, tu m'autorises à parler de 4 roues?
Non,
dans
parce
une
que là,
émission de 2 roues.
On va passer un petit morceau de musique.
Bon, c'était juste pour dire que les Jeeps remplacèrent les motos.
Allez.
Parce que ça devenait dangereux.
Bon, Christine, que faire jeudi? Parce qu'on fait le pont jeudi. Enfin, on fait pas le pont, enfin, c'est vendredi le pont.
Il y en a qui font peut-être le pont, mais quand même jeudi, bien, si vous voulez, vous pouvez aller au rallye au quatrième rallye des motards à Guénin. Donc c'est organisé par le motoclub La Longue Borne de Chy 59. Et donc vous avez rendez-vous à 8h45 donc au PMU, hein, le Guénin. Voilà. Cherchez, c'est très subtil.
Attends, je regarde.
Voilà, c'est donc là, page 21, ce sera mieux si vous voulez comprendre un petit peu le jeu de mots. Ben, c'est page 21 dans le calendrier.
C'est pas mal. Je pensais que tu l'avais inventé, mais non.
Non, pas du tout. Donc le départ est entre 9h et 10h.
Bon, tout à l'heure, on parlait de WLA, Christophe.
Oui.
Mais je sais, on va en voir. Ce sera Élie, le 17.
Élie est
le centre du monde. Il
faut dire où est Élie
du monde.
Ce
jour-là,
samedi
17.
Pascal.
On va situer Élie d'abord.
Dites-nous où c'est Élie d'abord.
Alors, Élie, c'est un petit village des WEP qui se situe entre Labassé et Lille. C'est-à-dire on est à une vingtaine de kilomètres de Lille et on est à 4 kilomètres de Labassé. On est sur la route nationale 41. C'est un tout petit village des WEP. C'est une superbe région. Donc on organise là le Rock Élie Free Festival, qui est à l'origine un festival hard rock, et qui cette année, pour la deuxième année, s'enrichit d'une exposition auto et moto ancienne. Donc, que dire? Vous me coupez un petit peu, vous me perturbez.
C'est toute la journée, c'est le samedi.
L'association Team Rabbit, qui est un atelier associatif, organise une exposition de motos anciennes entre les années 70-80, japonaises, allemandes, anglaises, toutes. Bon. Pour qu'elle soit belle.
Vous continuez à chercher toujours.
On continue à chercher. Celui qui veut venir est bienvenu. Voilà. Donc les exposants peuvent arriver à partir de 14h ou à partir de 10h le matin, parce qu'on met en place à partir de 10h. Donc, mais vous pouvez venir exposer toute la journée.
Vous êtes rodé, hein, parce que c'est pas la première. Hein.
C'est la deuxième. Donc,
alors c'est une fois tous les deux ans.
Festival Hard Rock, c'est
à l'origine,
tous les ans.
C'était un concert un festival de rock.
Un festival Hard Rock, oui. Tous les ans, mais nous, on agrémente tous les deux ans d'une exposition moto en plus. Voilà. Donc vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez des belles machines à exposer, venez les exposer. Les Harley également, on est ouvert aux
tout le monde.
On n'est pas du tout sectaire. 125, 50. D'ailleurs, il y aura.
Ancienne, moderne. Hein.
J'ai un ami qui a un club de l'équipe des WEP qui viendra avec son club et ses cyclos. Donc on va avoir des superbes cyclos italiens qui vont être présentés. Parce qu'on aime beaucoup les petites cylindrées. Voilà.
Et puis vous offrez le casse-croûte à midi.
Alors, ceux qui viennent le matin à 10h se mettre en place et donner un petit coup de main, on allume un barbecue le midi et puis les gens présents pour manger le petit casse-croûte.
Allez, saucisse merguez, hop.
Parce qu'au Team Rabbit, on a deux mots qui symbolisent le club, c'est amitié et convivialité. Parce qu'avant tout, cette journée, c'est la journée de l'amitié et de la convivialité. On vient, on s'amuse, on discute, on boit un coup et on passe un bon moment.
Et on parle de musique et on parle de
bécane. Et après, le soir, on s'amuse avec la musique et Ludo.
Alors, Ludo, maintenant, il y a trois groupes qui vont passer de 19h à 1h du matin, donc le samedi, je rappelle, c'est uniquement le samedi. Hein.
Oui, c'est ça.
Bah, bon. 1h du matin, ce sera dimanche, mais bon.
Toute l'après-midi, donc, c'est sur la place Saint-Nicolas de Bourgueil, la place principale d'Élie, là où aussi il y a la salle polyvalente où se passe donc le festival musical le soir.
Alors, trois groupes, alors c'est quoi? C'est du rock dur, c'est du rock... progressif, dis-nous un peu.
Alors, tout à l'heure, on parlait du championnat, c'est ça, de sidecar, où il y a très peu de femmes. L'originalité cette année, sur les trois groupes, il y en a deux, avec chanteuses, musiciennes et chanteuses, donc c'est pas mal. Et le premier groupe qui s'appelle Anaïk, la leader, chanteuse, qui est aussi guitariste. Ou batteuse, donc va déclarer les hostilités, mais en soft rock, c'est l'amuse-bouche. Donc à l'heure de l'apéro, ça va être parfait pendant une heure. C'est un groupe qui nous vient du Ternois, de Saint-Paul-sur-Ternoise. Voilà. Le deuxième groupe, un groupe lillois qui s'appelle les Locs à Terre.
Oui, alors vous parlez des Guénins tout à l'heure, mais
on fait dans le jeu de mots aujourd'hui.
Et pèle un peu le mot, le nom.
L-O-Q-U-E-S.
Les Locs, alors L-O-Q-U-E-S à Terre. Voilà, et pas les Locs à Terre.
Bon, un groupe lillois qui ont déjà de la bouteille, ils se sont formés en 1997. Ils ont joué l'année dernière au fameux festival du Remfest. Et là, c'est une chanteuse aussi, Coco, qui est aux manettes.
Et c'est ma copine.
C'est vrai?
Ah, non, oui. Alors c'est pas vrai.
Ah, si, bien sûr.
Allez.
Je connais Peter.
Bah, tu vois, c'est incroyable, tu vois.
Ouais. alors, eux, ils ont pour particularité de faire des reprises qui ne sont pas à l'origine du hard rock. Mais avec leur fougue et leur son, voilà, ça devient. C'est du hard rock pur. Ils reprennent du Janis Joplin, ah, oui. Du D'accord. Bjork, ah, voilà. Oui. Mais sauce hard rock. Et c'est sur scène. Ça déménage bien. Voilà. Donc eux, c'est le deuxième groupe aux alentours de 21h. Et on clôture là. Alors, l'autre originalité, au moins cette année, c'est le dernier groupe qui s'appelle Black Bart. Ils sont aussi lillois, enfin Dunkerque, Lille. Eux, ils chantent en français, du hard rock en français. Alors, c'est très rare. Et en plus, avec des textes très épiques, très riches, très relevés. Black Bart, c'est en hommage au fameux pirate. Gallois du 18e qui est à l'origine du code des pirates et voilà, c'est un hommage à ce personnage légendaire du 18e siècle, pirate.
Très bien, c'est gratuit ?
Gratuit.
Tout est gratuit.
Sauf la buvette.
Sauf la buvette, oui. Pour l'instant, j'ai pas vu d'association. Hein, ou de...
Ah, c'est la seule chose qui nous fait fonctionner.
Ah, qui faisait la buvette gratuite. Hein,
le soir.
Ça, c'est pas encore.
La journée, tous les stands, on a quelques stands, on a ADN Motors qui vient exposer ses trikes, on a Boy Concept qui est un fabricant de 125 un peu particulier qui vient. Tous les gens qui viennent exposer, qui mettent un stand, qui viennent pour vivre un petit peu, ont l'entrée absolument gratuite. C'est-à-dire, je ne fais pas payer d'emplacement, bon. On ne fait rien payer du tout.
D'accord. Donc, on précise aussi qu'il va y avoir des baptêmes moto, des sail et track. Hein, si on a.
J'ai les baptêmes de track et baptême de sidecar.
Voilà. Donc, tout ça se passe le 17 mai à Illy.
À Illy, oui.
Voilà, c'est pas très loin de Lille.
C'est pas très entre Lille, la Bassée. C'est à 15 km de Lens, 15 km de Lille et 4-5 km de la Bassée.
Très bien.
Faire une buvette gratuite, c'est plus sur moyen de boire la tasse.
C'est exactement, bien Jean-Yves. Mais alors là, toi, t'es fantastique. Alors là, écoute, on va te prendre. On t'a choisi d'ailleurs, hein, Guy. Christophe, on termine alors, avec ce sommaire Motomag. Là, une petite chose à dire encore.
Bah, une petite annonce pour un rassemblement. Puisqu'on parle de buvette, moi, j'ai relevé les randonneurs des Trois-Monts. Alors, la Trois-Monts, ça nous connaît. Hein, randonneurs des Trois-Monts organisent leur 4e journée moto le 18 mai. Alors ça se passe à Houpline, d'ailleurs c'est pas très loin d'Illy.
Je connaissais pas du tout, tu vois.
Voilà, près d'Armentières. Rendez-vous 9h30 à la salle André Clès, donc c'est au stade. Et puis là, vous partirez à 9h30 pour la balade de Ludo, 100 km et un concert l'après-midi. Hein, donc réservation, il y a un numéro de téléphone, je vais le donner. Hein. Réservation, participation 20 euros, réservation avant le 10 mai, pardon, et vous appelez le 06... 14, 14, 59, 77.
Guy, on termine.
Alors, on va rebondir sur ce que fait l'antenne 59, l'antenne de la FFMC. Donc elle sera au RIF le 17 à Illy. Elle sera le 18 à Houpline, ce dont vient de parler donc Christophe. Et puis on rappelle aussi que le 24 mai, l'antenne organise une rencontre interclub moto qui va avoir lieu aux mines, au restaurant Le Rendez-vous du Marché, donc de 15h à 20h le 24 mai. Et ça permettra à tous ceux qui veulent rouler avec en compagnie et voir d'autres motoclubs, et c'est l'occasion, pardon. Et on demande à ce que chaque moto présente ramène une miniature, une moto ou une bagnole, qui sera remise à l'association Ludhôpital pour les tchos. Et éventuellement, les dons sont acceptés, si vous voulez. Et voilà. Et ça se terminera en musique avec un concert de reprise de Trust par un groupe lillois. Voilà.
Toute dernière précision, là, pour le Rock Illy Free Festival, le RIF, un numéro de téléphone.
Alors le mien, éventuellement, 06 17 26 17 51. Et c'est lui Ludo qui va donner, parce que moi je l'ai.
Il y a peut-être une adresse internet, peut-être, ou un site.
Une adresse internet, alors c'est teamrabbit59@gmail.com.
Sinon, il y a la page Facebook.
Il y a la page Facebook aussi également. Ouais. Très bien. Écoutez, on vous souhaite une bonne journée pour le 17. Hein.
Merci.
Et beaucoup de monde.
Ouais. On espère du beau temps, surtout.
Voilà, oui, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Ouais. Cette année, on l'a commandé pour toute l'année. Merci Guy pour toutes ces infos.
Hein. Avec plaisir.
Merci Jean-Yves pour le bol d'or à Montlhéry. Hein. C'était super ça. Par contre, le Birmingham machin, British Small Arms, c'était pas bon du tout.
Il révise.
Christophe, merci.
Rendez-vous dans un mois.
Dans un mois.
1er juin.
Pascal, Ludo, merci aussi. Bonne exposition et bon concert.
Merci à vous.
Christine pour toutes ces infos. Et la programmation musicale, j'en parle pas. Alors là, Laurent, c'est toujours génial.
Merci et au revoir.